Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, chers messieurs les abbés, mes bien chers frères, permettez-moi d'adresser tout d'abord quelques mots à nos premiers communiants de ce jour. Chère Léopoldine, cher François, toute votre vie, vous vous rappellerez de ce jour de votre première communion. C'est l'un des plus beaux jours de votre vie. Vous le savez, vous l'avez appris au catéchisme, quand le Seigneur Jésus vient sur l'autel, c'est la messe. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et quand le Seigneur Jésus vient en vous, c'est cela la communion. Il n'y a pas de plus grande grâce, de plus beau cadeau que vous puissiez recevoir sur cette terre. Communier, c'est être uni à Jésus si profondément que les saints disaient « c'est comme deux morceaux de cire fondus ensemble ». Ainsi, chaque communion de votre vie, et c'est aussi à vos parents, parrains et marraines que je m'adresse, chaque communion de votre vie devra ainsi être bien préparée et bien désirée. Alors notre prière vous accompagne pour que toujours vous restiez fidèles à Jésus. Eh bien, chers frères, dans sa simplicité, cet évangile du bon pasteur nous donne à comprendre que pour être de vraies brebis, il faut écouter la voix du pasteur. Mais pour écouter, il faut encore lutter contre la surdité. Cette surdité, ce sont les obstacles qui s'opposent au progrès spirituel. Cette surdité, mes bien chers frères, vient des misères de notre nature, ou des attaques et des pièges du démon, ou encore des épreuves permises par le bon Dieu. De tous ces obstacles, nous pouvons faire des moyens, car si nous les surmontons, ils tournent avec la grâce au profit de nos âmes. Il y a cependant, chers amis, une autre surdité qui, elle, nous est directement imputable et qui est plus difficile à vaincre, c'est notre résistance aux grâces divines. Dieu, en effet, est incliné à combler de grâce les créatures pour lesquelles il a sacrifié son Fils. Mais nous sommes libres. Et Dieu veut ainsi nous donner le bonheur éternel seulement dans la mesure où nous aurons voulu nous en rendre dignes. C'est pourquoi le bon pasteur tient grandement compte dans la distribution de ces grâces et de la fidélité avec laquelle nous les acceptons et des résistances qui leur sont opposées. Qui correspond à une grâce attire sur son âme d'autres grâces et est mieux disposé à en profiter. Mais qui repousse volontairement une grâce en recevra moins par la suite. C'est le sens profond de l'adage spirituel classique. Dans la vie chrétienne, celui qui n'avance pas recule. Il n'y a pas de stagnation. On a donc raison de dire « moins on fait pour Dieu, moins on veut en faire ». Alors que plus on l'aime et on se sacrifie pour lui, plus il est facile de grandir dans la sainteté. Sans cesse, en effet, notre Seigneur nous convie au renoncement et à la charité. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Celui qui refuse d'écouter les inspirations de la grâce commet un péché mortel si l'acte qu'il refuse de faire est gravement obligatoire ou si l'œuvre qu'il veut accomplir est gravement défendue. S'il y a une matière légère, il n'y aura qu'un péché véniel. Ou si l'action ou le sacrifice inspiré par Dieu n'est que de conseil, il n'y aura qu'une imperfection. Cependant, toutes ces infidélités, quand elles sont commises de sang-froid, avec pleine connaissance, produisent une certaine diminution de lumière et un certain affaiblissement de la volonté. Certes, la conséquence est petite quand il n'y a qu'un acte isolé d'infidélité à la grâce. Mais si cette infidélité est souvent renouvelée, Si l'âme y persévère et s'obstine à refuser à Dieu ce qu'il demande et qui est connu comme tel, alors il se produit un aveuglement de l'esprit et un endurcissement de la volonté qui sont extrêmement funestes. Laissons de côté ce matin ceux qui vivent habituellement dans le péché mortel et dont l'aveuglement et l'endurcissement sont si dangereux pour le salut. Ne parlons que de ceux qui, fidèles au devoir essentiel du christianisme, c'est-à-dire, nous l'espérons, l'immense majorité d'entre nous, commettent habituellement des fautes vénielles ou se laissent aller à des imperfections dont ils ont pleinement conscience, dont ils ne s'appliquent pas à se corriger ou encore qu'ils cherchent à s'excuser. Chez ces âmes, les lumières diminuent à mesure qu'elles s'obstinent à fermer leurs yeux aux clartés de la grâce. Elles deviennent moins clairvoyantes, elles comprennent beaucoup moins bien la beauté, la grandeur, l'importance de la vertu qu'elles se refusent à pratiquer. Elles cessent de voir, ou du moins, elles voient moins bien la gloire que Dieu en retirerait et les avantages éternels qu'elles-mêmes y gagneraient. Et pendant que l'intelligence s'obscurcit dans ces âmes, leur volonté s'attache de plus en plus au péché, à leur propre satisfaction, et de plus en plus se détourne de la vertu qu'elles n'ont pas le courage de pratiquer. Voilà, chers amis, comment s'explique que des âmes bonnes et sincèrement pieuses gardent des défauts qui surprennent. Comment, malgré leur qualité, malgré leur amour de la prière, malgré même l'observance exacte des exercices de piété, elles ne parviennent jamais à une véritable ferveur. Eh bien, chers frères, quand une âme ne s'inquiète plus des fautes vénielles et même des imperfections, alors elle les commet sans retenue. Elle aura beau jeu de se rassurer en se comparant à ceux qui vivent dans le péché mortel. Mais elle ne sera alors que dans une dangereuse tiédeur. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Cependant, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il est là. Il nous poursuit de son amour et rien n'est impossible à sa grâce. Prions donc et prions sans nous lasser, car combattre la tiédeur, mes bien chers frères, combattre la tiédeur est un des grands enjeux des fidèles catholiques à notre époque. La prière obtient tout, surtout quand elle est jointe au sacrifice, parce que la prière rend l'âme docile à la voix du bon pasteur. Faisons donc des efforts, et n'ayons pas peur des efforts qui coûtent, et que l'amour nous inspire. Ainsi la grâce sera plus puissante et de plus en plus pressante en nos âmes. Notre intelligence recouvrera les lumières perdues, et dans nos cœurs renaîtra le véritable amour. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.